Et comme tous les jours à 15h30, eh bien c'est USA Today pour suivre la tendance, l'ouverture des marchés américains et Aude Kersulec qui m'accompagne. Bonjour Aude, merci d'être avec nous dans l'émission. Vous allez être notre fil rouge tout au long de BFM Bourse. Comment ça se passe à l'ouverture aux États-Unis ?
Bah c'est l'inverse de la clôture d'hier soir à Wall Street. On a le Dow Jones qui perd un petit peu de terrain. Bon, c'est quand même assez léger, hein, moins 0,14%. 39 000 points tout juste d'ailleurs. Le S&P 500 qui reste bien proche de l'équilibre. Hein, 0,05% de hausse, 5 190 points. Et plus 0,15%, le Nasdaq qui reprend un peu de terrain. Il avait clôturé en baisse hier avec notamment des gros gadins dans la tech hein, comme Uber ou encore Shopify. Le Nasdaq est pour le moment à 16 333 points et tient du côté des taux obligataires pour le 10 ans américain. On est à 4,50, tout juste, ça bouge pas hein, depuis quelques jours, tandis que l'euro-dollar vaut lui 1,0760.
Dans un instant, vous allez nous parler de Airbnb qui connaît une séance compliquée aujourd'hui à Wall Street. Mais juste avant, un petit peu de macro avec, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles ont été publiées il y a une heure.
Est plus élevé que ce qu'attendait le consensus. 231 000 inscriptions au chômage la semaine dernière. Le consensus, il était à 212 000 après 209 000 la semaine dernière. Donc ça monte un petit peu. La moyenne sur 4 semaines, ce qu'on dit en général est plus représentatif de la tendance de fond, eh bien, elle monte ainsi très légèrement. C'est anecdotique. On a une hausse de 250, on est à 210 000. Alors ça vient tout de même après un rapport sur l'emploi américain vendredi, donc le rapport pour le mois d'avril, qui là aussi était plus faible que prévu. Les hausses de salaire étaient plus faibles, le taux de chômage était un petit peu plus élevé, les créations d'emplois sur le mois d'avril étaient un petit peu moins importantes que ce qu'attendait le consensus. Donc le marché y a vu en début de semaine un signe d'optimisme. Donc là, ça ne contredit pas le rapport sur l'emploi de la semaine dernière.
Voilà donc pour cette statistique du jour. Comme tous les jours dans USA Today, on regarde ce qui se passe aux États-Unis d'un point de vue politique avec les élections américaines qui arrivent à grands pas. Ça sera le 5 novembre prochain. Et là, il y a un tournant majeur, Aude, par rapport à Joe Biden et la situation en Israël, au Moyen-Orient.
Oui, dans un entretien à CNN hier, Joe Biden a tapé du poing sur la table. Il menace de ne plus livrer d'armes en cas d'opération massive d'Israël sur Rafah. Donc la sanction consisterait à ne plus envoyer de bombes lourdes, celles qui ont contribué à vraiment détruire les villes à Gaza au début de la guerre, et plutôt de continuer à fournir tout ce qui constitue la défense d'Israël, notamment le dôme de fer et les missiles anti-aériens. C'est important ce qui s'est passé hier, parce que c'est la première fois que le soutien à Israël est conditionné par l'administration américaine. Et les États-Unis ont même reconnu que les bombes américaines ont tué des civils à Gaza, des femmes, des enfants. Et on sait quand même qu'il y a une chose que Israël a perdue depuis sa réplique du 7 octobre, c'est la guerre de l'opinion, la guerre de la communication avec les images d'enfants tués. Et que ça a une incidence aux États-Unis sur la population, notamment la jeune population qu'on a vue se révolter sur les campus américains. Et on sait que ça fait des semaines que Joe Biden envoie Anthony Blinken notamment au Moyen-Orient pour dire au pays, à Israël, de ne pas envoyer une offensive majeure à Rafah parce que c'est là que sont assez plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre. Washington veut un plan de protection claire des civils. Pour l'instant, il ne l'obtient pas. Voilà pourquoi Joe Biden a sévi hier. Alors c'est sûr qu'il y a des entretiens directs avec Benjamin Netanyahou, mais là c'est aussi pour le faire savoir à son opinion publique en vue bien sûr de l'élection présidentielle de novembre prochain.
Voilà donc pour ce point sur la situation géopolitique et les relations entre Israël et les États-Unis. Vous l'avez dit, l'obligataire grimpe très légèrement aujourd'hui, comme hier. Le 10 ans américain repasse au-delà des 4,5%. Et cette remontée des taux, bien sûr, elle inquiète les professionnels de l'immobilier aux États-Unis.
Et notamment un mania de l'immobilier. Alors, c'est pas celui qui se présente à la présidentielle, mais c'est Barry Sternlicht, le PDG de Starwood Capital Group, un fonds d'investissement qui possède notamment des hôtels. Donc oui, alors il a un intérêt personnel à la baisse de taux, forcément, mais il a un raisonnement aussi plus macroéconomique qui est assez intéressant, qui dit que si l'inflation résiste, c'est que les taux élevés, c'est pas le bon outil pour vaincre l'inflation parce que les ménages ne sont pas pas touchés. Il dit c'est une chose très simple. Les Américains, ils ont des emplois, ils ont des crédits pour la plupart à taux fixe et ils ont des revenus d'intérêt provenant de leur épargne placée sur des fonds qui leur apportent 5%. Finalement, ils vont bien donc. Et la plus grande victime de la hausse de taux, c'est le gouvernement fédéral qui, lui, a vu ses charges d'intérêt doubler ces dernières années pour atteindre 1 000 milliards de dollars. Les banques régionales notamment ont été d'autres victimes collatérales parce que forcément ça a jeté aussi un trouble sur les évaluations d'actifs, notamment dans l'immobilier commercial, et que ça crée un cercle vicieux parce que les villes et les municipalités dépendent des taxes foncières provenant de ces actifs commerciaux pour faire fonctionner les écoles, la police ou encore tout ce qui dépend de la communauté. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé finalement ce qui se passe. Les administrations publiques sont les plus touchées par la hausse de taux, alors que les ménages, ça va plutôt bien. Voilà pourquoi, selon lui, il faut quand même baisser assez rapidement les taux.
Et ces baisses de taux, on en parlera dans quelques minutes avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, qui sera avec nous. On reviendra bien sûr sur la Banque d'Angleterre et puis sur les anticipations de baisses de taux aux États-Unis, qui sont très volatiles ces derniers jours. Aude Kersulec, passons désormais à l'actualité des entreprises. On est dans la dernière salve des résultats trimestriels et ça se passe pas très bien aujourd'hui pour Airbnb. La valeur perd un peu plus de 6%.
Oui, Airbnb, alors la compagnie qui a publié 132 millions de nuits réservées, c'est pratiquement 10% de plus que l'an dernier. Le chiffre d'affaires est lui monté de 18%. Alors le profit, là sur le premier trimestre, a largement été battu et les revenus sont tout juste en dessous de ce que le consensus attendait. En fait, pour beaucoup d'analystes, cette prévision en baisse pour le deuxième trimestre, c'est à cause d'une course à la croissance qui coûte de plus en plus cher pour Airbnb, notamment parce que ça coûte cher d'acquérir de nouveaux clients, ça coûte cher en marketing et que les coûts de marketing viennent amputer les prévisions d'EBITDA pour continuer d'avoir une croissance donc de plus en plus faible. En plus, des coûts d'acquisition élevés donc pour les nouveaux clients, forcément c'est quelque chose qui déçoit un peu les analystes. Donc des prévisions pas à la hauteur de ce que le marché pouvait attendre, même si Airbnb essaie de rassurer qu'il a vu des effets positifs, notamment un afflux de réservations au moment de l'éclipse aux États-Unis, qu'il prévoit aussi une belle période à venir pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour le moment, ça ne convainc pas forcément le marché, puisque vous l'avez dit, la valeur est en baisse.
La valeur est en baisse, en effet, de plus de 7%, 146$ pour ce titre Airbnb. Nous reviendrons dans une heure avec Julien Marion de notre site BFM Bourse sur cette publication trimestrielle donc de Airbnb. Un mot quand même également du secteur des semi-conducteurs qui décidément, Aude, anime de jour à jour les séances aux États-Unis, avec aujourd'hui ARM qui s'est introduit l'année dernière à Wall Street. Bon, aujourd'hui c'est compliqué, après il ne faut pas l'oublier, un parcours spectaculaire. La valeur perd quasiment 6% après ces trimestriels.
C'est pas le même secteur qu'Airbnb, mais c'est le même mécanisme, le même schéma. Ce sont les prévisions, là aussi, les guidances données par l'entreprise qui ne sont pas à la hauteur de ce que veut le marché. C'est vrai que le marché s'est un peu emballé sur l'IA ces dernières semaines. Et là, c'était un peu la soupe, pas la grimace. Hier, lors des publications pour l'entreprise ARM, le fabricant de puces britannique. Alors, c'est pourtant, quand on écoute la conférence call qu'a eu le PDG, les dirigeants avec les analystes, ils ont essayé de rassurer sur leur modèle. L'engouement pour l'IA a permis à notre entreprise de connaître une croissance sans précédent. Des modèles de logiciels tels que ChatGPT ou encore Llama de Meta deviennent plus grands et plus intelligents et ils ont besoin de leur puce. ARM qui vend des licences de conception de puces à des fabricants qui payent ensuite des redevances pour fabriquer ces puces. C'est donc un modèle qui marche. Pour les revenus actuels d'ailleurs, ils étaient au-dessus des attentes. Le chiffre d'affaires était en hausse de 47% par rapport à la même période l'an dernier. Mais là, les prévisions sont jugées un peu plus moroses. Pourtant, elles sont dans la fourchette de ce qui était annoncé auparavant, mais elles ont été confirmées dans le bas de la fourchette. Donc, en fait, on reproche à ces entreprises de l'IA pour le moment d'être trop prudentes sur leurs prévisions. Et là encore, c'est sanctionné en bourse aujourd'hui à Wall Street. Le titre qui baisse en ce moment de 5,4%.
Voilà donc pour ce titre ARM, il nous reste une minute. Oetker Schulenc, parlons d'autres valeurs qui font l'actualité. Bumble a publié ses résultats et puis il y a peut-être un gros deal également en cours sur Paramount Global.
Oui, c'est vrai, Paramount Global, c'est une série quand même qui continue. Il y avait une période de négociation exclusive avec Skydance et ça ne s'est pas conclu, hein, a-t-on appris dans la presse. En revanche, il y a vraiment des rumeurs qui reviennent, celle d'un consortium qui serait intéressé pour racheter Paramount. C'est un consortium Sony et le fonds d'investissement Apollo qui offre 26 milliards de dollars donc pour s'opposer à l'offre concurrente de Skydance. Sauf que le New York Times avance que si le consortium est intéressé pour racheter Paramount, c'est pour le démanteler ensuite. Alors en fait, on aurait Sony qui aurait la participation majoritaire, hein, dans cette co-entreprise qui prendrait la bibliothèque de films de Paramount, on a notamment Le Parrain ou encore Diamant sur canapé, et qui la lirait à sa bibliothèque à lui, et ça ferait quand même un gros studio qui serait capable de rivaliser avec Universal ou encore Walt Disney Studio. Quant à Apollo, lui il récupérait le pôle média de Paramount, notamment CBS, parce que c'est une mesure requise par les lois américaines, c'est que les médias ne peuvent pas aller à un propriétaire étranger, donc pas Sony qui est japonais. En tout cas, c'est ce que croit savoir donc le New York Times. Mais pour l'instant, ça ne sont que des rumeurs qui devront être confirmées.
En effet, et ça sera à suivre donc sur ce dossier Paramount qui pourrait faire l'objet d'un rachat à quasiment 26 milliards de dollars. Merci beaucoup, Oetker Schulenc, de nous avoir accompagnés pour ce rendez-vous quotidien USA Today.